15h05 sur France Inter, c'est parti pour Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Être historien, c'est trahir. C'est trahir parce que le réel est toujours infiniment plus riche, infiniment plus compliqué que la théorie. Être historien, c'est refuser quelque ordre que ce soit. Qu'il s'agisse de l'ordre de la société, qu'il s'agisse de l'ordre de la mode, qu'il s'agisse de l'ordre social.
Voilà, il s'appelait Pierre Vidal-Naquet. On lui rend hommage aujourd'hui à la Bibliothèque nationale tout au long de la journée des amis, des témoins, des confrères, des éditeurs, des chercheurs de toutes sortes sont en train aujourd'hui et toute cette journée jusqu'à 19h30. Vous pouvez y aller tout à fait si vous en avez l'envie, le loisir. C'est à la Bibliothèque nationale de France, donc bibliothèque dite François Mitterrand. C'est hommage à Pierre Vidal-Naquet qui nous a quittés le 26 juillet dernier. Pierre Vidal-Naquet était un repère pour Là-bas si j'y suis, mais beaucoup plus que ça, bien sûr. Il a très souvent, il est intervenu dans cette émission pour y apporter des précisions, notamment en ce qui concerne une des périodes dans laquelle il s'était sans doute le plus engagé, c'est-à-dire la période de la décolonisation, de la guerre d'Algérie, les questions de la torture autour de l'affaire Maurice Audin, etc., le 17 octobre, et à bien d'autres moments aussi. Aussi, on a voulu lui rendre aujourd'hui un hommage à travers les archives de l'INA et de Radio France, et c'est l'hommage qu'on va lui rendre. Mais il y a aussi les messages que vous avez laissés sur le répondeur de Là-bas si j'y suis. Alors vous voyez, on est parti dans une ambiance un peu comme ça de dommage, d'émotion. Et puis on va passer à ce qu'il y a dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis. Et bien ça, c'est du Pierre Vidal-Naquet. C'est exactement du Pierre Vidal-Naquet, c'est-à-dire des considérations, des idées, de la réflexion, de l'histoire, puisqu'il était un grand historien, un grand helléniste. Et puis le passage à la vie quotidienne, à la vie courante, et évidemment à la contestation et à la résistance. Donc voici vos messages, ceux que nous avons sélectionnés, dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis, et ensuite cet hommage à Pierre Vidal-Naquet.
Le 12 septembre de cette année, Édouard Rioux, notre ami, étudiant de 26 ans, est jeté du pont neuf à Toulouse par 4 SDF. Sa mort est devenue pour la municipalité de cette ville le symbole qui fait retomber l'acte odieux de 4 personnes sur la tête de toute la communauté dite SDF. SDF, aujourd'hui à Toulouse, est devenu synonyme de danger. Le premier magistrat de la ville fait fi du devoir et de la mission qui devrait être la sienne d'apaiser les esprits, de tenter de comprendre comment et pourquoi cela a pu arriver dans sa ville. Au lieu de tout cela, il s'attaque par son discours et par ses actes à l'ensemble de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de dormir dans la rue, sous la tente ou dans des squats. Lui, Édouard, s'interroger sur la réalité et les conséquences des phénomènes de la marge. Il n'aurait sans doute jamais, parlant de ces gens, employé des mots tels que mendicité agressive ou victime de difficultés passagères. Ces mots réducteurs qui fleurissent aujourd'hui dans la bouche de certains élus en disent long sur leur méconnaissance des réalités de la misère. Nous disons, nous, membres d'une association à Toulouse qui depuis bientôt 14 ans œuvrant dans un lieu dénommé par certains squats culturels, que les premiers responsables de ce crime sont ceux qui laissent vivre et mourir leurs semblables dans la rue. Nous disons que ces élus devraient s'interroger sur le fait que l'hommage où se retrouveront les proches amis intimes et familles d'Édouard, ceux de Toulouse, de Vannes qui était sa ville, de Paris et du Québec, ait lieu dans ce lieu que les Toulousains appellent la chapelle. Édouard fréquentait ce lieu. Ce lieu revendique la poésie contre la marchandise, un lieu pour une ville à vivre et non à consommer, un lieu que les élus de la ville de Toulouse, eux, ne fréquentent pas. Parce qu'aujourd'hui, sa mort a servi, beaucoup servi, au point d'en oublier ce qu'a été sa vie, ses combats, ses rêves. Nous espérons que cet acte symbolique dans ce lieu symbolique sera entendu comme un cri, un appel à la raison, à l'humanité, au dialogue et à l'intelligence. Nous espérons qu'il signera la fin d'une odieuse récupération qui, d'un fait divers tragique, a fait un événement qui nous concerne tous.
Bonjour là-bas si j'y suis. J'écoute l'émission là, sur Kaboul. Alors moi j'ai une citation là, sans chercher si loin que ça. En tant qu'individu, la femme est un être chétif et défectueux. C'est signé Saint Thomas d'Aquin. Alors j'en ai une autre sur une définition sur l'Amérique par Georges Bernard Shaw. C'est le seul pays au monde qui soit allé de la préhistoire à la décadence, sans passer par la civilisation. Au revoir.
Bonjour, c'est Livo Bourg-en-Bresse. Je viens de voir le chat là de Daniel Mermet sur franceinter.com. Alors je sais pas qui c'est qui modérait, mais en tout cas toutes les questions du genre allez-vous participer à tel concert ou êtes-vous plutôt 4x4 ou scooter, ça passait. Mais dès qu'on posait des questions un petit peu sur le fond, genre c'est quoi ces concerts que vous soutenez qui appellent plus ou moins vos TPS, dès qu'on posait des questions sur le fond de la grille de France Inter, ça passait pas. Est-ce que Daniel, tu rentres dans le jeu de France Inter de faire des chats de communication pour enfin voilà quoi, pour faire de la communication pour la marque France Inter ou vraiment on peut discuter de sujets un peu plus concrets. Voilà, salut.
Ben on a fait ce qu'on a pu, hein. Ça va très très vite un chat, il y avait des quantités de questions qui arrivent de tous les côtés et puis c'est vrai que c'est un petit peu le c'est presque le tirage au sort, hein. Ça va très très vite, mais enfin voilà, on a fait ce qu'on a pu et j'espère que vous avez été à peu près satisfait. J'ai l'impression que l'expérience va se reproduire, enfin on verra. Voilà, donc quelques messages, vous avez entendu, il y en a d'assez pressants, d'assez révoltés, d'assez résistants et qui collent tout à fait avec l'émission d'aujourd'hui et l'homme auquel on va rendre cet hommage, Pierre Vidal-Naquet. On pourrait résumer sa vie à un seul mot, résistance. Il aura été toute sa vie un résistant, il l'a dit, à l'ordre établi. Et j'adore cette formule où il dit être un historien, c'est être un traître. On va passer cette heure en sa compagnie. Après les messages que voici, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Voilà, on est jeudi soir, on est à Marseille, il est environ 19h et l'inauguration officielle de l'indignomètre va avoir lieu devant les locaux de Radio France. On écoute tout de suite le discours d'inauguration.
Alors, c'est avec une grande fierté, on m'a conseillé pour un discours d'inauguration de toujours commencer par cette phrase. C'est avec une grande fierté, surtout grande, que dans un instant, nous avons retiré le voile et vous avez découvert l'indignomètre qui a été fabriqué par notre grand plasticien, par la taille, François Pecker, que nous remercions ici. L'indignomètre, comme le manchomètre, annonce l'irruption des citoyens dans le champ médiatique. Ensemble, le 29 septembre, nous avons inauguré ici même le manchomètre et les résultats fournis depuis sa mise en service sont extrêmement préoccupants. Ils confirment.
Voilà, vous avez la tonalité du discours qui ne manquera pas, je l'espère, de faire tache d'huile parmi les villes qui souscrivent à ce début ou cette indignation prononcée. À bientôt.
Bonjour Daniel Mermet, je m'appelle Morgane et je suis de Paris. Mon frère vit actuellement au Mexico et j'appelle pour pousser un coup de gueule de ma part et de la sienne aussi. Coup de gueule contre la censure qu'effectuent les médias français sur Oaxaca. Je m'explique, Oaxaca, c'est un état du sud du Mexique où un conflit a éclaté il y a plusieurs mois. Ils mettent aux prises les autorités locales, fédérales et la population lassée des abus du gouverneur Ulises Ruiz, gouverneur corrompu autoritaire. L'armée est même intervenue de manière très musclée pour réprimer le mouvement. Et depuis ces quelques mois, la violence ne cesse d'augmenter. On ne compte plus aujourd'hui les lynchages, abus de pouvoir, arrestations arbitraires, disparitions, morts d'enfants, de femmes et de pères de famille. De plus, depuis quelques jours, les corps d'armée ont pénétré dans l'université autonome de la capitale de Oaxaca afin d'empêcher le mouvement de communiquer avec le reste du pays et le reste du monde. Et nous, pendant ce temps-là, bah rien, ou presque, de ces infos ne nous parions en France. Un article dans l'IB, deux ou plus dans le monde, absolument rien dans les journaux télé. J'appelle donc les médias français à réagir sur ce sujet, car ne rien dire, c'est aussi se rendre complice. Voilà, merci et bonne journée à tous.
Bonsoir à toute l'équipe et aux auditeurs de France Inter. simplement vous informer que se tiendra ce week-end à Vergès, près de Nîmes, dans le Gard, le 4e Festival International de Rock'n'Roll Rockabilly Boogie, les vendredis 10, 11 et 12 novembre prochains. Donc si vous êtes fan, en vacances dans la région ou simplement curieux de belles scènes, rejoignez-nous à l'espace Vergès pour un week-end inoubliable autour de fabuleux artistes internationaux. On compte sur vous. Merci, à bientôt.
En ce moment, nous jouons dans un petit théâtre lyonnais, « Ça t'apprendra à vivre » de Jeanne Benhamer, celle qui a gueulé contre Azouz Begad. Elle y raconte son enfance mi-arabe, mi-européenne pendant la guerre d'Algérie. Notre compagnie est peu subventionnée, elle parle tout le temps d'arabe et de noir, ça plaît aux élus, à condition que ça ne coûte pas. Donc on ne se paiera pas de panneaux de co pour attirer le chaland comme les théâtres dits nationaux. Alors les copains de la base, j'y suis, venez nous voir, on sera contents. Bis à tous, à bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Renaud Lambert, là-bas si j'y suis, Pierre Vidal-Naquet.
Flight number 2, arriving from New York.
La famille s'appelle Vidal-Naquet à partir de 1750 environ. Mais le premier des Vidal-Naquet, Isaïe Vidal-Naquet, qui est né vers 1720 et qui est mort en 1800, est né Isaïe Naquet. Il est devenu Isaïe Vidal-Naquet plus tard sans que l'on sache pourquoi.
Le bon plaisir de Pierre Vidal-Naquet.
Ce qui est amusant, c'est qu'au fond, les deux mots désignent la même chose. Vidal signifie vivant. C'est la traduction dans les langues occitanes, si vous voulez, de l'hébreu Chaim, qui signifie le vivant. Quant à Naquet, le mot dérive d'un mot latin, qui est le mot nascens, qui signifie naissant. De même que le philosophe juif Crescas, son nom vient du latin crescens, croissant, et l'énaquet, le mot de naquet, vient très probablement du latin nascens, qui signifie naissant, ce qui fait que mon nom signifie vivant naissant.
Le mot qui semble vous définir le mieux, je ne sais plus qui l'a trouvé, c'est finalement Dreyfusard. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être Dreyfusard en 2000?
Eh bien, si vous voulez, d'abord ça signifie quelque chose pour moi, dans la mesure où quand j'avais 12 ans, mon père, qui était pourtant né au cœur de l'affaire Dreyfus, mais qui n'avait pas vécu directement, ça signifie que quand il y a une bataille pour la vérité, cette bataille peut être gagnée. C'est ça peut-être l'essentiel. Être Dreyfusard, ce n'est pas croire par exemple à l'antisémitisme éternel. C'est croire peut-être qu'un homme innocent peut être reconnu innocent à condition qu'on se soit battu pour établir son innocence. Qu'un fait nié, ça a été le cas de la torture en Algérie, peut être rendu public parfois des années après. Dans quelques jours, je vais être au jury d'une thèse sur la pratique de la torture et l'armée française en Algérie. Dans mes rêves les plus fous, en 1957 ou 1958, je n'imaginais pas une chose pareille, que plus de 40 ans après, je serais en tant qu'universitaire, pas au jury d'une thèse sur la démocratie grecque, mais au jury d'une thèse sur l'armée française et la torture.
Invité de pièce à conviction, le général Ossarès, bonsoir. Est-ce que vous aussi, vous faites encore des cauchemars de cette époque de la guerre d'Algérie?
Non, je n'en fais plus.
Mais vous en avez fait longtemps.
Oui, oui. Oui.
J'aimerais précisément que vous me disiez aujourd'hui, avec 40 ans de recul, ce que vous regrettez d'avoir fait.
De m'être trouvé amené, sinon à pratiquer moi-même la torture, du moins à couvrir ceux de mes subordonnés qui la pratiquait, qui avait dû la pratiquer.
Mais vous l'avez pratiqué vous-même, vous le racontez dans votre livre.
Oui.
Et pourquoi vous étiez volontaire, vous?
Ben pour les faire souffrir.
Ah.
Là, c'est un autre plaisir. Comme ça, on se venge.
Jusqu'où ça a pu aller, ces tortures, ce plaisir?
Jusqu'à la mort.
Ça a duré combien de temps avant de les tuer?
Oh, des fois 4-5 jours.
4-5 jours de torture,
ah, oui. Et avant de les tuer, on leur faisait faire leur trou. Et quand le trou était fait, s'ils ne voulaient encore pas avouer, eh ben on le tuait. Et puis on faisait reboucher le trou par un copain, qui était prisonnier aussi.
Combien vous en avez exécuté comme ça?
Une vingtaine.
Ah ouais.
Pour beaucoup d'hommes et de femmes de ma génération, Pierre Vidal-Naquet, depuis un demi-siècle, a été un repère sûr, à la fois lucide et engagé, érudit et très expressif. Mais surtout et avant tout, il se disait, il vient de le dire, il se disait un traître à l'ordre établi, à l'ordre des dogmes, à l'ordre de l'histoire, à l'ordre du pouvoir. Traîtres, oui, en vérité, ils sont très peu nombreux, ces traîtres parmi les érudits, les détenteurs de savoir, se rangent presque toujours au service du pouvoir. Pouvoir politique, économique, religieux, tout autant que les grands peintres, musiciens et architectes. Il est rare que l'un d'eux morde la main qui le nourrit. La connivence sociale, la connivence de classe est évidente entre le pouvoir politique et le pouvoir du savoir, entre le monde politique et le monde du savoir. Vous voyez Paris, la proximité entre le 6e et le 7e arrondissement, par exemple, entre la noblesse universitaire et la noblesse d'État. La majorité des intellectuels est au service des puissants. Ce sont les puissants qui les nourrissent et leur offrent rentes et colifichets. Les hochets symboliques, comme on disait. Ce que je vous dis là n'est pas nouveau. Benda parlait de la trahison des clercs et Nizan parlait des chiens de garde. Nizan fut l'un de ces traîtres, l'un de ceux qui a retourné l'arme contre les maîtres, et pas seulement la crosse en l'air, l'arme du savoir contre les armes du pouvoir, l'arme de la poésie contre l'arme de l'ordre, et je pense à Artaud, l'arme de l'humanité contre l'arme de la tyrannie, et nous revoilà avec Pierre Vidal-Naquet, mais pas avec des mots comme ça, des mots comme j'en prononce, des mots ronflants qui claquent au vent, non. Des mots précis, argumentés, affûtés, documentés, articulés. Voilà le traître que fut Pierre Vidal-Naquet. Trahir sa classe, trahir le monde du savoir pour vendre la mèche, c'est-à-dire la donner à tous et se sentir chargé de la vengeance du peuple. Lorsque dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran, et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît, chargé de la vengeance des peuples. Pierre Vidal-Naquet adorait citer ces phrases de Chateaubriand, écrites en 1805, et disait Pierre Vidal-Naquet, ça avait mis Napoléon en fureur.
J'ai toujours été ce qu'on appellerait en latin un homo duplex, un homme double. C'est-à-dire à la fois historien et littéraire, à la fois un petit peu historien et philosophe. Et si j'ai choisi jadis de faire de l'histoire, c'est que c'était une manière pour moi de faire à la fois de l'histoire, de la philosophie et de la littérature. Je me définirais aussi par la conjonction de coordination la plus simple, la conjonction et, E-T.
Qui définit ce que vous êtes, ce que vous faites, les titres de vos livres.
Oui, c'est ça.
Il y a toujours deux choses.
Il y a toujours deux choses, il y a toujours une liaison, comme ça, forme de pensée et forme de société dans le monde grec. C'est le sous-titre du Chasseur noir. La brisure et l'attente, c'est le titre du premier volume de mes mémoires. Je ne suis pas simple, mais plutôt double.
Alors, il y a l'helléniste.
Il y a l'helléniste et le juif. Il y a l'historien et un peu écrivain quand même. Il y a le grec et le juif de l'époque hellénistique ou romaine.
Et si on vous dit le français,
il y a le français.
Dieu sait que vous l'êtes.
Oui, je le suis au plus haut point.
Et quoi ?
Ben quoi ? Tout le reste. Mais d'abord, le français, effectivement, c'est une des rares choses où je me sens totalement intégré. Mais je ne suis pas français et autre chose.
Alors, si on peut dire que c'est un maniaque de la vérité, cette exigence, quand on écrit quelque chose, d'être sûr qu'on a tout vérifié, qu'on n'a rien laissé passer de côté et tout ça. Chapeau. Ça, et puis chapeau. Pierre était un type très fidèle, incroyablement fidèle, attentif, soucieux de ceux qu'il aimait bien, prenant des nouvelles, participant à leur peine, comme j'ai participé aux siennes. Parce que malgré tout, il y a ça aussi qui a joué, c'est que j'ai été présent dans une série de circonstances qui n'étaient pas faciles. Et voilà, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Hein.
Montaigne et la Boétie, évoquée par Jean-Pierre Vernant il y a quelques jours. C'est Abraham Segal qui a enregistré la voix de Jean-Pierre Vernant, qui aujourd'hui a 92 ans et qui était à la fois l'ami et aussi le maître de Pierre Vidal-Naquet.
Collège de France, 2 mars 1987.
Moi, dans mon souvenir, la première fois qu'on s'est vu, c'est à la Réunion.
Ah est... oui, non, mais ça, c'est la première fois qu'on a parlé. Parce que toi, tu ne me voyais pas. Moi, la première fois, moi, je te voyais.
Tu crois qu'avant l'affaire Audin, tu avais écouté...
Quelques semaines avant, j'étais venu t'écouter l'exposé sur le fleuve Amélès et la Mélété Thanatou.
Oui.
Bon.
Tu es sûr de ça?
Et c'était... Alors, totalement. Tu venais d'être élu à l'école.
Non, alors bon, excuse-moi, c'est faux.
Pourquoi ?
Parce que j'ai été élu à l'école seulement en 58, sans doute.
Tu as été élu à la fin de 57 pour prendre tes fonctions en 58.
Peut-être. Terrible, ces historiens.
Les auteurs de Mythes et Tragédies en Grèce ancienne, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet se souviennent.
Et il y avait toi.
Et si j'avais à faire un portrait de toi, comme ça m'est arrivé parfois, je dirais que tu es fondamentalement un historien. C'est ça que j'admire en toi. On admire toujours un peu ce qu'on n'a pas chez les autres. C'est-à-dire que vraiment tu as le sens de l'histoire et tu as cette extraordinaire capacité de pouvoir te déplacer d'une période à une autre très différente, parce que d'un monde à un autre monde, tu es passé du monde grec au monde romain moins souvent, mais c'était arrivé aussi au judaïsme ancien, tu es passé à des époques beaucoup plus proches de nous, le 18e ou des choses comme... Tu as cette capacité, à mes yeux extraordinaire, d'être capable en relativement peu de temps, sur une question, d'absorber l'ensemble de la documentation qui en parle et à partir de là, à déplacer le problème, à présenter, à porter sur lui un regard qui est un regard décalé par rapport à ce que les autres ont fait, et qui, pour des gens comme moi qui n'y connaissent rien, aboutit à ce résultat que tu signalais tout à l'heure pour moi, qu'après t'avoir lu, on dit, mais oui, c'est tout à fait évident, c'est comme ça que ça passe. Je ne dirais pas que je le savais déjà, je ne le savais pas du tout déjà, parce que dans l'histoire, on ne sait rien, mais c'est bien ainsi que le problème doit se poser. Être capable, en histoire comme en philosophie, de voir que ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, c'est d'arriver à définir, à partir des textes, des témoignages, de tous les documents, de définir quel est le vrai problème, quel est l'enjeu de la question, et comment le problème doit être posé et abordé. Ça, c'est à mon avis la qualité fondamentale de l'historien, et tu l'as tout à fait. À partir de là, il faut donner à ça une espèce de configuration particulière, ce qui est déjà un choix, ce qui est déjà une façon de prendre position. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire de relier les problèmes qui sont les problèmes de la vie sociale contemporaine, les problèmes dans lesquels on vit, et de sa propre vie, et de sa propre éthique, et de sa propre façon, comme disent les philosophes, d'être au monde et d'être à soi-même. Il faut prendre tout ça, et en évitant de transporter sur un monde qui n'était pas le sien les problèmes qui sont d'aujourd'hui, être capable quand même de voir que tous ces documents, ben, il y a eu des hommes qui les ont vécus, et que pour eux, il s'agissait de cela. Qu'est-ce que c'est que ma vie ? Quel est le sens à lui donner ? Quel est l'enjeu des luttes ? Comment les luttes se présentent ? C'est-à-dire que dans le travail de l'historien, quel que tu le fais, on arrive, je crois, à comprendre pourquoi un même homme peut travailler sur le monde grec ancien, dont la plupart des gens penseraient que, comme on m'a dit une fois, tu travailles sur les Grecs, il n'y a pas urgence. Qu'il n'y a pas urgence, que, bon, après tout, ça peut attendre, ce qui est vrai. Mais qu'en même temps, le même homme peut appliquer des méthodes d'analyse, des qualités, non pas de sincérité, mais de probité intellectuelle, aussi grande pour traiter d'un problème comme l'affaire Audin. C'est pas par hasard que dans l'affaire Audin, tu n'as pas été seulement un militant à l'intérieur du comité, mais que tu as été aussi celui qui a écrit l'affaire Audin, c'est-à-dire qui a fait un travail d'historien, je veux dire d'enquête policière, pour essayer de voir tous les points qui faisaient problème, et à partir de cela, de redonner à toute cette affaire sa physionomie de drame personnel d'Audin et de drame historique, et d'un drame dans lequel, et toi, et moi, et tout le monde, se trouvaient engagés. C'est-à-dire qu'il y a une, comme dans le cas de Gernet, quand on réfléchit, une espèce de continuité dans le chemin qui relie un travail scientifique tout à fait scrupuleux et tout à fait détaché, et d'autre part, des engagements qui peuvent être passionnés, et qui chez toi, parce que tu es un type passionné, et quelquefois avec un certain goût de la provocation, peuvent prendre une allure un peu fracassante, parce que tu aimes ça. Plus que moi, plus que moi. Certes, moi je ne suis pas un provocateur. Je suis un type, bon, je suis plus vieux. J'en ai vu beaucoup.
Il y a 20 ans, c'était déjà comme ça.
C'est vrai.
Oh.
Une histoire que je raconte et qui est assez drôle. Je n'aimerais pas le garçon parce que il est maintenant un personnage tout à fait illustre à Marseille. Mais enfin, deux de mes camarades me poursuivent dans la rue Paradis, rue bourgeoise par excellence, en faisant ça. Juif, juif, juif. Et puis, arrive un monsieur qui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'ose pas le dire, monsieur, il est juif. Alors ce monsieur, c'est mon oncle. Alors, les gifles sont partis, pendant que mon oncle assommait l'un, moi j'assommais l'autre, parce que la situation était redevenue égalitaire, il n'y était plus deux contre un, mais deux contre deux, dont un adulte. Oui. Et mon père m'a donné une pièce de 10 francs pour mon premier sang. Parce que j'avais fait saigner un de mes camarades, et celui-là même qui est devenu illustre.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du Parti communiste auxquels on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement avec son bon sens et son expérience habituelle le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber ?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
Voilà ce qu'on pouvait entendre sur certaines TSF dans l'enfance de Pierre Vidal-Naquet, auquel on rend hommage aujourd'hui à travers toute une série d'archives de différentes époques, en même temps qu'aujourd'hui, toute la journée, hommage lui est rendu à la Bibliothèque nationale de France, toute une série d'interventions qui essayent de couvrir, et c'est bien difficile, tous les domaines qui ont passionné cet homme avant tout curieux. Il avait un appétit extraordinaire pour toutes les choses de la vie, bien sûr. D'abord, il était un historien, il était cet historien qui se voyait comme un traître à tout ordre établi et à tout pouvoir établi. Mais sa traîtrise est allée jusqu'au présent, c'est-à-dire que pour lui, être historien, il aimait répéter ça, c'était s'occuper du présent. Pourquoi est-ce que le présent ne serait pas dans l'histoire ? Or, son domaine était la Grèce antique, la démocratie athénienne, les philosophes grecs, qui semblent bien éloignés, Jean-Pierre Vernon vient de le dire, de nos préoccupations quotidiennes et de ce qui, chaque jour, nous scandalise. Et si on ne s'y oppose pas, peut nous broyer. Et c'est contre ces forces qu'on vient d'entendre là à travers ces voix de la propagande que Pierre Vidal-Naquet s'est battu mais nous a donné l'envie de se battre parce qu'on ne perd pas toujours. Et pour dire on ne perd pas toujours, il avait cette référence qui était évidemment pour lui l'affaire Dreyfus. Pierre Vidal-Naquet était né à Paris en 1930. Il le disait lui-même, d'une famille aisée. Il disait, chez moi, on disait que c'était une famille aisée, mais on était tout simplement riche, d'une famille de juives assimilées. une bourgeoisie aisée, mais très éclairée. Son père était avocat, Dreyfusard, il l'a dit et redit. Son père lui disait « il faut être de gauche ». Son père était un admirateur de Jaurès. Je ne crois pas que son père ait été, lui, quant à lui, véritablement un homme de gauche, qui n'a pas empêché, en tout cas, d'entrer dans la résistance. Et ses parents, on va le voir, ont été arrêtés en mai 1944 à Marseille.
Non, mon père a résumé ça d'un mot. Il disait « Je ne veux pas être le juif errant ». C'est un mot qu'avait dit aussi son ami Jacques Franck. Jacques Franck était un avocat juif, héros de la Première Guerre mondiale, et qui avait épousé ce qu'on appelait à l'époque une arienne, et qui s'est jeté par la fenêtre pour ne pas faire porter à sa famille le malheur. Alors ensuite a commencé l'attente. Mon livre s'appelle « La brisure et l'attente ». La brisure, c'est à la fois juin 40 et mai 44, et l'attente commence en 44. Et d'une certaine manière, elle dure toujours. C'est-à-dire que je n'ai pas encore encaissé vraiment. Il a fallu que je voie une femme, qui s'appelle Nadine Effler, qui est partie dans le même convoi que mes parents, mais qui, elle, a survécu, et qui, semble-t-il, a vu ma mère dans le wagon où elle était, qui l'a aidée à s'occuper des enfants.
C'est la seule trace précise que vous ayez trouvée?
Oui.
Les Allemands n'avaient pas des registres?
Si, j'ai trouvé, il y avait une liste des gens de ce convoi qui était faite par les Allemands. Et quand je suis allé à Auschwitz, un ami italien qui a obtenu copie de ce registre où mes parents étaient sous le nom de Vidal. Vidal Anwalt, c'est-à-dire avocat. Mais... oui, ça j'ai eu des traces, tout ce qu'on voulait. Mais la seule personne que j'ai vue et qui ait pu identifier ma mère, et elle m'a dit doucement, je crois qu'elle n'est pas entrée dans le camp. C'est-à-dire qu'elle a été gazée tout de suite.
Oh.
ça vous ruine la vie, cette idée des parents disparus?
Ça m'a brûlé quelques années de ma vie. Et surtout, ça m'a empêché très longtemps de faire le deuil. Parce que ce n'est que tard que j'ai réalisé, encore en 1946, par exemple, j'espérais qu'il reviendrait. C'est ma tante, la jumelle de ma mère, qui m'a dit, mais écoute, il faut bien t'y faire, ils ne reviendront pas, ils ont été tués. Et pour moi, c'était le tournant de ma vie. Alors que Jacques Brunswick, par exemple, ne s'est jamais fait l'ombre d'un doute. Quand il a su que mes parents étaient arrêtés, il l'a écrit dans un texte qui n'a pas été publié. Il savait qu'il ne reviendrait pas. Parce que un de ses camarades lui avait un jour dit « Toi, tu termineras en savon. »
À quelle époque ?
En 42-43.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient vraiment tout ça ?
Ils ne savaient pas, ils croyaient le savoir, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de savon fait avec des juifs. Mais c'est une des histoires qui a circulé à l'époque.
Ce qui veut dire qu'on savait, il y a quand même beaucoup de gens qui savaient vraiment que ça finissait comme ça.
Il y en avait.
Oui. C'est le grand mystère, on se demande toujours qui savait, qui ne savait pas.
Bien sûr. Non, ceux qui savaient, ça a été montré par Stéphane Courtois, Ned Vivorka et d'autres. C'est les journaux yiddish qui paraissaient clandestinement à Paris. Ceux-là savaient. La radio anglaise le savait. Les services secrets anglais le savaient. Tout récemment, j'ai lu un article paru en 2001 dans lequel on s'aperçoit que non seulement les Anglais savaient, mais qu'ils avaient déchiffré les radiotélégrammes des Allemands donnant le chiffre des morts dans les différents camps. Par exemple, un peu plus de 700 000 à Treblinka. Donc, il y avait ce que un historien anglais, Walter Laker, appelait le terrifiant secret.
L'historien Pierre Vidal-Naquet est aujourd'hui à Marseille. Il donnera ce soir une conférence à la faculté Saint-Charles. Le thème, les révisionnistes, ces historiens qui nient l'existence de chambres à gaz et de génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pierre Vidal-Naquet leur a d'ailleurs consacré un livre que nous présente Claude Paul-Pajard.
Pierre Vidal-Naquet est originaire d'une très vieille famille marseillaise. Il est historien, il s'occupe principalement de la Grèce antique, mais il s'occupe aussi de l'histoire contemporaine. La preuve, ce livre qui vient d'être publié aux éditions La Découverte, Les assassins de la mémoire. Alors, qui sont les assassins de la mémoire?
J'ai appelé ainsi ceux qui s'intitulent eux-mêmes révisionnistes, mot qu'ils ont d'ailleurs usurpé, et qui nie l'existence, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un génocide des Juifs et des Tziganes. Ils disent, par exemple, qu'à Auschwitz, il n'est pas mort plus de 50 000 personnes, et que les chambres à gaz hitlériennes sont une invention de la propagande sioniste alliée, voire soviétique.
Alors, ce qu'il y a de très, très curieux, c'est le fait que un argument aussi insoutenable, aussi invraisemblable, puisse paraître quelquefois presque crédible.
Eh bien, s'il paraît crédible, c'est que nous, historiens, nous n'aurons pas fait notre métier. Car pour les historiens, cet argument ne vaut rien. Mais il est vrai que de même que l'on racontait avec des apparences d'arguments que Dreyfus était coupable, on raconte avec des apparences d'arguments que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et cela pourquoi? Tout simplement parce que ces historiens, qu'ils se recrutent à l'ultra-gauche ou à l'extrême-droite, ces prétendus historiens font ce que les nazis avaient déjà commencé, c'est-à-dire dissimuler leur forfait. Les nazis ne proclamaient pas l'existence des chambres à gaz, urbi et orbi. Ils les cachaient soigneusement, ils les appelaient salles de douche. Bref, ils faisaient tout pour les dissimuler, pour que tout se passe en bon ordre pendant leur règne, et ils les ont détruits systématiquement. Ils ont détruit systématiquement toutes les traces de leur forfait à partir de 1943.
Alors, c'est ce que certains appellent aujourd'hui les détails de l'histoire. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une internationale de ce...
Il y a parfaitement une internationale de ces prétendus révisionnistes. Elle tient des congrès à Los Angeles régulièrement. Elle a ses journaux en anglais, en français. Elle a aussi des personnages assez bizarres, comme ce Suédois qui organise des tours de Pologne révisionnistes, c'est-à-dire qu'il emmène des touristes en car à Auschwitz ou à Treblinka, et il leur dit, voilà ces endroits où il ne s'est rien passé. Je suppose qu'ils y trouvent quelques jouissances personnelles.
Merci, je rappelle le titre de votre livre, Pierre Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire aux éditions La Découverte.
Il y avait cet homme-là, cet homme qui allait de micro en micro, même quand les présentatrices ricanaient, et qui, pour présenter ce livre, qui était d'abord un acte politique, mais avec cette extraordinaire précision glacée, froide, d'historien dans son argumentation. Et ça fait partie des longues luttes, des luttes qui finissent par aboutir, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que, bien sûr, il faut rester vigilant, mais on peut dire que ces négationnistes, quand même, n'ont plus la superbe qu'ils avaient il y a 20 ans. Vidal-Naquet fut cet homme de toutes les résistances, de tous les combats, et avec la certitude que les choses peuvent changer, qu'il y a une partie non fatale du devenir sur laquelle nous pouvons, et pour ce qui le concerne, nous devons agir. C'est ce qu'il disait à ses étudiants, vos recherches, c'est bien, mais avant tout, vous devez être responsable. Et c'est cet homme à qui nous faisons cet hommage aujourd'hui, et on continuera lundi, deuxième partie. On évoquera évidemment la décolonisation plus dans les détails, mais avant de se séparer, je voudrais qu'on entende ce petit document, alors que après la guerre, Pierre Vidal-Naquet, le saviez-vous, fut scout.
Marseille, le 9 mars 1987, chez Jean et Amicon d'Andriopoulos et avec Alain Finiel.
Il devait avoir 10 ans quand il est venu au Louveteau, dans une meute dont j'étais la chef-tête.
Amicon d'Andriopoulos.
Et il est venu avec son frère François. Ils sont arrivés tous les deux et ils étaient un peu nouveaux à Marseille et parmi leurs camarades, parce qu'ils étaient à peine arrivés de Paris depuis quelques semaines, à la suite de l'arrivée des Allemands et la fermeture de la France en deux parties. Ils étaient deux petits garçons très en train, mais Pierre était particulièrement peu dégourdi. Il n'était pas fort à la course, il ne gagnait pas facilement les concours, mais il avait une intelligence surprenante et demandait toujours la raison d'une chose ou d'une autre. Je dois reconnaître qu'il n'avait pas beaucoup de biais pour faire un feu, et que finalement nous avions renoncé à le lui faire faire parce que les allumettes auraient toutes disparu et le feu n'aurait pas pris.
Jean Contandriopoulos.
Dans les conversations que j'ai eues avec Pierre Vidal-Naquet, il a gardé un souvenir ému de l'accueil qui lui a toujours été réservé dans les milieux protestants. Lorsqu'il était louveteau éclaireur, c'est dans des unités de scoutisme protestant qu'il a été accueilli. Et il a gardé de cette période le souvenir d'une ouverture, d'une acceptation, sans aucune question. Il était comme tous les autres.
Et c'est peut-être ces protestants qu'on retrouvera par la suite, mais ceci est une autre histoire, dans les réseaux Janson. Il faudrait pas non plus croire que Pierre Vidal-Naquet était cet homme sérieux, cet homme militant. Il avait des passions, une curiosité universelle, je l'ai dit, et notamment pour la musique et aussi pour la poésie.
Et pourquoi est-ce que j'ai gardé à travers les décennies cette passion pour la poésie qui me vient de mon enfance? Eh bien parce que la poésie, par définition, c'est un langage pluriel. Et c'est ce refus d'un monde unifié dans le langage qu'exprime, en quelque sorte, mon amour profond, en effet, pour cette planche de vie qui est aussi la poésie. Et quand il s'agit de la poésie de René Char, cette multiplicité des significations est absolument éclatante.
Hymne à voix basse. L'Hélade, c'est le rivage déployé d'une mer géniale, d'où s'élancèrent à l'aurore le souffle de la connaissance et le magnétisme de l'intelligence, gonflant d'égale fertilité des pouvoirs qui semblèrent perpétuels. C'est plus loin une mappemonde d'étranges montagnes, une chaîne de volcans souris à la magie des héros, à la tendresse serpentine des déesses, guide le vol nuptial de l'homme, libre enfin de se savoir et de périr oiseau. C'est la réponse à tout, même à l'usure de la naissance, même au détour du labyrinthe. Mais ce sol massif, fait du diamant de la lumière et de la neige, cette terre imputrescible, sous les pieds de son peuple victorieux de la mort, mais mortel par évidence de pureté, une raison étrangère tente de châtier sa perfection, croit couvrir le balbutiement de ses épis. Ô Grèce, miroir et corps trois fois martyr, t'imaginer, c'est te rétablir. Tes guérisseurs sont dans ton peuple, et ta santé est dans ton droit. Ton sang incalculable, je l'appelle le seul vivant pour qui la liberté a cessé d'être maladive, qui me brise la bouche, lui du silence et moi du cri. J'ai lu ce poème pour Pierre Vidal-Naquet.
Merci à tous. C'était une émission préparée par Renaud Lambert. Merci à Abraham Segal, Pierre-André Boutan, Gérard Gromère, Patrice Gélinet, Pierre Assouline, Alain Weinstein et tous ceux qui ont fait ces émissions dans lesquelles nous avons puisé ces éléments. Pour la plupart, ce sont des émissions de France Culture, Le Bon Plaisir, À Voix Nue, L'Histoire Immédiate, Première Édition, Surpris par la Nuit et un film d'une vidéo de Pierre Boutan diffusée sur la chaîne Histoire en mars 2004, et puis une vidéo d'Abraham Segal avec la voix de Jean-Pierre Vernant. Merci aussi à Jennifer Guillot de l'INA pour les archives, à lire L'Histoire et mon combat, le dernier entretien entre Pierre Vidal-Naquet et Dominique Bourrel aux éditions Albin Michel. La suite donc lundi, une deuxième partie. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pourrez réécouter cette émission à la technique. Aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinais et Pierre-Yves de Rollin. C'est Coy Nguyen et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission, assistés de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert, qui vous attend au répondeur au 01 56 40 37 37.